suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Anthropocène, concept pour Happy Few il y a encore quelques années, le mot peuple désormais quotidiennement les colonnes des journaux et résonne souvent à la radio, notamment celle que vous êtes en train d'écouter. Anthropocène donc pour dire cette nouvelle ère géologique au cours de laquelle l'activité humaine a affecté de façon décisive l'écologie et l'atmosphère de la planète Terre. Le constat s'impose, mais les débats ont cours à propos du point de départ. Quand certains estiment que ce sont les premiers essais nucléaires qui marquent l'entrée dans ce moment nouveau, d'autres le font remonter beaucoup plus tôt, au 19e siècle et à la révolution industrielle. Politiste professionnel, anthropologue amateur, environnementaliste convaincu et anarchiste par principe, James Scott est beaucoup plus radical. C'est dès l'utilisation du feu par l'homme qu'il estime nécessaire de devoir remonter pour comprendre l'anthropocène. Le feu, puis la sédentarité, l'agriculture, l'élevage et l'invention de l'État. C'est ce qu'il défend dans un essai brillant Homo Domesticus. James Scott est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Des débuts de l'utilisation du feu, en un mot de la préhistoire, il sera encore question dans la seconde partie de l'émission puisque nous rejoindra Maria Stavrinaki qui travaille sur la préhistoire ou l'histoire de la préhistoire et à qui on doit cette exposition avec d'autres, Préhistoire, une énigme moderne actuellement au centre Georges Pompidou ainsi qu'un livre qu'elle a fait paraître aux presses du réel, Saisie par la préhistoire. Ça, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Bonjour James C. Scott, vous êtes de nouveau l'invité de la suite dans les idées, quelques années après être déjà passé par cette émission pour parler d'un de vos livres précédents. Cette fois, vous êtes attaché à des périodes de l'histoire ou de la préhistoire dont vous étiez moins familier, à vrai dire, et c'est presque un peu par hasard que vous avez pris le temps d'écrire ce livre. C'est un livre d'ailleurs exemplaire de ce point de vue. Vous racontez la jeunesse du livre au début, comme beaucoup d'universitaires, vous faites depuis longtemps le même cours, et puis vous êtes amené à faire des conférences, puis vous vous dites peut-être il se serait bien de mettre à jour un peu mes savoirs, et là stupeur, vous découvrez en amateur, mais en amateur quand même extrêmement érudit, que tout un tas de travaux récents viennent bouleverser, pour peu qu'on prenne la peine de les relier les uns avec les autres, des représentations qu'on croyait acquises et qu'on a tous en tête, que même vous-même vous avez enseigné pendant de longues années à des étudiants. Et c'est ce qui vous a conduit à mener cette enquête, dont vous dites qu'elle n'est pas originale au sens où vous n'avez pas vous-même produit des données, produit des sources, mais vous vous êtes appuyé sur de très nombreux travaux pour en proposer une vision qui, elle, est pour le coup extrêmement originale. En quoi cette vision est originale et en quoi vient-elle bousculer nos représentations de l'histoire que vous racontez, James C. Scott?
I think if there is any advantage I have as an amateur and imposter.
En tant qu'amateur, voire imposteur, il me paraît que s'il y a un avantage qui serait le mien à écrire ce livre, eh bien, c'est ma naïveté. Nous sommes nombreux à le faire, j'absorbe le récit conventionnel de la civilisation qui nous est livré, à savoir, lorsque l'homme a domestiqué les plantes, eh bien, l'humanité a pu s'installer, devenir sédentaire, et on est parti du principe que nous avions beaucoup d'impatience à le faire. Et une fois installé en un lieu, nous avons bâti des villages, des villes, et la civilisation a suivi. Dans ce récit, n'est pas rétroactif. On part de la chasse et la cueillette à l'agriculture, au village, aux villes et à la civilisation. C'est très linéaire et unidirectionnel.
Et
ce récit, après analyse pendant 25 ans, est apparu comme étant totalement faux à mes yeux. Par conséquent, l'avantage que j'ai, c'est celui de la surprise de l'amateur. Surpris, je le suis par les choses que j'ai apprises et que beaucoup de gens ignorent. Ainsi, ce livre constitue un effort de m'adresser aux gens d'une naïveté similaire pour leur expliquer ce qui est surprenant et à quel point nous devons repenser l'origine de l'État. Donc, la question qui se pose est de savoir comment nous en sommes arrivés à vivre en tant que groupement d'humains, de bétail, d'animaux et de céréales au cours de l'histoire de l'humanité. Et c'est de là que découle la surprise.
Alors, l'une des conséquences de ce travail, l'une des conclusions, c'est que l'État voit sa place relativisée dans l'histoire de l'humanité. Au fond, l'État occupe une toute petite place dans cette histoire, y compris dans l'histoire de l'organisation politique de l'humanité. La forme État ne concerne que très peu de temps, et elle a cohabité et dans des formes instables avec d'autres modes d'organisation politique. Ça, c'est l'une des leçons importantes, mais c'est une leçon qui a longtemps été masquée par ce que vous appelez des biais, qu'on pourrait dire des biais étatistes, au fond, parce que des modes de connaissance, comme l'archéologie, ce sont, du fait de des lieux de fouilles en particulier, se sont arrêtés sur ce qui avait à voir avec l'État, en particulier des bâtiments solides, où après, les historiens ont porter leur attention sur des documents qui, en général, étaient des documents produits sur l'État. Tout ça a conduit à se focaliser sur les traces laissées par l'État, qui sont des traces manifestes, fréquentes, mais qui ne sont pas représentatives, au fond, de la place limitée qu'a pu avoir l'État pendant de très, très longues années.
Your summary of my argument is excellent.
Vous faites une synthèse excellente de mon argumentation.
What is surprising? As you say, is that,
ce qui est étonnant.
Well, of course, the history of barbarians
d'abord, l'histoire des barbares
is written by the state.
Est écrite par l'État.
So everything we know about
par conséquent, tout ce que nous savons
peoples,
des
gathers,
peuples chasseurs, cueilleurs qui ne sont pas sous forme d'État, eh bien, nous le devons à des gens de l'État qui ont donc rédigé cela.
Et
le but est de mettre en lumière la différence entre la civilisation, l'État donc, et ces gens qui sont en dehors de l'État. Vers la fin de mon ouvrage, j'exprime le fait que la majorité de la population du monde a vraisemblablement vécu en dehors de l'expérience quotidienne de l'État et de la fiscalité jusqu'au début du XVIIe siècle. Et je crois avoir raison. Ainsi, les États ont existé pendant 5000, 6000 ans peut-être, et la présence de l'État a été marginale dans la vie des êtres humains jusqu'à 200 ou 300 ans. Et aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas imaginer la vie sans l'État. Donc, l'objectif de l'histoire profonde, c'est de prendre une focale beaucoup plus large et de prendre un point de vue relatif sur l'importance ou la prépondérance de l'État, comme vous le dites. Donc, avec une focale suffisamment large, tout se déplace et on revient carrément aux plaques tectoniques. Et cela constitue, à mes yeux, quelque chose qui est tout à fait à rapprocher de ce que vous avez dit dans votre chapeau sur l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est un petit peu un nuage que j'ai au-dessus de la tête, et moi, je veux me plonger en arrière pour comprendre comment nous sommes arrivés à la forme de vie que nous connaissons.
Alors, remettre en question des biais de connaissance, celui dont on vient de parler à propos de l'État, mais également réinterroger des causalités toutes faites, c'est l'un des mérites de votre livre. Causalité, par exemple, entre l'agriculture, l'élevage et l'apparition de l'État. Vous montrez, en vous appuyant sur divers travaux, qu'en fait, toutes les relations de causalité entre ces deux variables sont possibles. Il peut y avoir de l'agriculture sans État, il peut y avoir de l'État sans agriculture, l'un n'apparaît pas nécessairement avant l'autre ou l'autre après l'un. Finalement, toutes les lectures qui ont considéré que l'État était le produit de la possibilité de faire de l'agriculture, aujourd'hui tout ça est remis en cause par les travaux, et ce qui caractérise une très longue période de l'histoire de l'humanité, au fond, ce sont des possibles multiples.
The series of events that I had absorbed, like the rest of us,
la série d'événements qu'il m'a été donné à absorber a été basculée, en français dans le texte, par les recherches que j'ai faites. Et la première surprise, c'est des preuves incontestables de la domestication des plantes 4000 ans avant que n'apparaissent des preuves de l'existence des hommes grâce à l'agriculture. Donc, si l'invention de l'agriculture nous a permis de nous installer et de bâtir des civilisations, pourquoi a-t-il fallu 4000 ans pour que l'on applique ce grand principe de la civilisation? Puis, j'ai appris qu'avant cela, avant l'agriculture, il y avait des civilisations. Les gens, après l'agriculture, sont repassés à la chasse et à la cueillette, puis sont revenus au pastoralisme. Donc, vous voyez, il y a un processus de linéarité non rétrospective, unidirectionnelle, qui nous a été imposé, alors qu'en fait, en vérité, tout semble réversible, et ça a été le cas pendant des millénaires. Et à mon sens, mon travail n'a constitué qu'à rassembler, je l'espère de manière convaincante, la façon dont nous devons repenser les origines de la civilisation.
Réversible, dans un sens, puis dans l'autre, revenir à la cueillette, après être passé à l'agriculture, mais aussi, parfois, on a vu des modes d'organisation politique cohabiter sur des territoires relativement petits, des modes plus urbain, est-ce qu'on peut parler d'urbain, et puis des modes nomades cohabiter dans la même période de temps, par exemple. Ça aussi, ça permet de remettre en question les schémas un peu linéaires avec lesquels on pense ces époques-là.
In fact, there's tremendous amount of evidence that the early forms of agriculture,
de données qui nous montrent que les premières formes d'agriculture étaient menées par une seule famille, une famille étendue, divisée en partage de tâches entre les individus qui s'occupent des animaux et les individus qui se chargent des plantes. Et cela a été considéré comme deux aspects de subsistance au sein d'une même famille, famille étendue. Ultérieurement, on pense que l'agriculture sédentaire se séparait complètement du pastoralisme. On pensait qu'il y avait opposition et le pastoralisme constituait une menace envers la civilisation. Mais il ne s'agissait là que de formes saisonnières de subsistance. Ainsi, les gens qui plantaient lors d'une saison s'occupaient alors des animaux pendant que les nouvelles céréales poussaient après la fin de la saison des pluies. C'est ainsi que ça s'est passé.
Vous avez utilisé le mot tout à l'heure de domestication. Mais dans votre livre, vous insistez bien sur le fait qu'il n'y a pas eu un moment où la domestication est soudainement devenue possible. Il n'y a pas eu, écrivez-vous, un eureka de la domestication. Là encore, il s'agit d'une histoire complexe, longue, et on ne sait pas très bien qui domestique qui, d'ailleurs, James C. Scott.
Yes, the domestication is a process. And man has been
la domestication est un processus, et l'homme manipule les plantes, même avant Homo sapiens, c'est-à-dire avec le feu. Donc, de ce point de vue-là, la domestication, ne fait pas l'objet d'un moment eureka, comme vous dites. On ne peut pas dire, voilà, c'est avec l'amour atomique que commence l'anthropocène. Non, tout est arbitraire, en fait. C'est une question de choix, de décider le moment de départ de l'anthropocène ou de la domestication. Mais ce qui est important dans la domestication, c'est que c'est en fait une maîtrise de la reproduction. Autrement dit, à un moment donné, les êtres humains maîtrisent la reproduction des plantes et sélectionnent les plantes en fonction de caractéristiques utiles et changent la morphologie des plantes. Il en va de même pour les animaux domestiqués qui font l'objet de changements radicaux. Et nous maîtrisons la reproduction et nous ne sélectionnons que les animaux ou les caractéristiques qui nous sont précieuses. Et par la sélection, nous éliminons les caractéristiques qui ne nous, ou les traits qui ne nous intéressent pas. L'histoire de l'esclavage et les guerres de capture sont également une forme de maîtrise de la reproduction, parce que le but, c'est d'intégrer les femmes en âge de reproduction dans la population, pas simplement pour les faire travailler, mais pour les faire se reproduire.
Vous parlez d'esclavage. Une des choses importantes qui a changé ce mode d'organisation proto-étatique ou étatique qui apparaît à certains moments, c'est le fait de créer des inégalités probablement plus importantes à l'intérieur du groupe humain concerné que celles qui traversaient ceux qui étaient organisés différemment et ceux qui étaient non sédentaires en particulier. L'invention de l'État, c'est aussi l'invention d'un mode d'organisation de la hiérarchie sociale nouveau. Vous insistez beaucoup sur cette dimension-là pour dire aussi à quel point cela remet en question une histoire linéaire d'un progrès humain dans l'organisation politique, James C. Scott.
It seems to me that once you have fixed agriculture,
il m'apparaît qu'une fois que l'agriculture est sédentarisée ou sédentarise les êtres humains, on passe de commun ouvert de la propriété de la terre, pardon, pour passer à un concept de propriété privée. Et une fois la propriété privée installée à la place des communs, vient la possibilité de la transmission et des différences de maîtrise de la richesse et de la maîtrise de la terre. Donc, les différences ne sont pas des différences d'inégalité. Les pastoralistes et les chasseurs-cueilleurs font l'objet de relations sociales empreintes d'inégalité, mais ces différences ne peuvent pas être transmises génération après génération avec la propriété privée, évidemment. Donc, les grands avantages de la transmission s'agissant de l'agriculture sédentarisée, c'est quelque chose qui se perpétue soi-même, vous voyez. Alors, évidemment, il y a des révolutions, il y a des fuites, il y a des migrations et ainsi de suite, mais c'est ainsi que l'on voit les différences des inégalités selon les différents modes de subsistance.
Le titre original de votre livre, c'est « Against the Grain ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi avoir choisi ce titre, James C. Scott ?
Well, in English, of course, it's a double entendre.
Il s'agit, bien sûr, comment dire en anglais, d'un double entendre.
Se traduit pas facilement en français. But against the grain, what I wish to say is that my narrative.
Par cette expression, je veux dire que mon récit prend le récit traditionnel à rebrousse-poil, en quelque sorte. Et par ailleurs, je signale que tous les premiers États ont reposé sur une céréale qui pouvait faire l'objet d'une taxation. Il y a le maïs, et c'est le millet en Chine, c'est le riz aussi, et il y a en Mésopotamie. Le blé et l'orge. Et ça, ça a été une surprise pour moi aussi. Les premiers États reposent sur des céréales taxables qu'ils peuvent être plantés dans des plaines inondables. Et ce sont des céréales qui poussent en terre et qui peuvent faire l'objet d'une évaluation année après année, dont la maturité arrive au même moment selon la saison. Ce sont des céréales que l'on peut stocker, que l'État peut confisqués, qui recèlent une certaine valeur, qui peuvent l'objet d'un rationnement. Et je pose la question, pourquoi n'y a-t-il pas d'état patate? Pourquoi n'y a-t-il pas d'état manioc? Donc, il n'y a pas d'état qui repose sur ces céréales riches en hydrates de carbone. Et moi, il m'apparaît que pour ce qui est de tous les états, les céréales sont nécessaires. S'il n'y a pas de céréales, il n'y a pas d'état. C'est une hyperbole, une sorte d'exagération tout de même.
C'est l'hypothèse céréalière. Vous le formulez comme ça. Mais pourquoi? Pour des raisons très, très matérielles, ça permet vraiment de quantifier, de stocker, de capitaliser. C'est aussi une manière de créer une nouvelle économie via les céréales.
Yes, the question of the problem of the state, of course, is
la préoccupation de l'État, et là, on arrive à l'aspect marxiste de la compréhension que l'on peut se faire des premiers États, c'est la façon dont l'État s'approprie la production et met sous sa coupe la population. Et moi, j'argue que pour faciliter l'appropriation, la production concentrée de céréales constitue le moyen le plus aisé d'envisager la taxation d'un bien qui peut être confisqué, stocké et utilisé comme unité de valeur.
Alors, vous vous intéressez aussi à la façon dont l'État parvient à naître, mais aussi à perdurer, parce que beaucoup d'États échouent, beaucoup d'États ne durent qu'un temps, sont remis en question par d'autres modes d'organisation. Il va falloir très longtemps pour que l'État devienne finalement monopolistique. Au fond, aujourd'hui, peu de sociétés échappent à ce mode d'organisation sociale. Mais pendant longtemps, ce mode d'organisation est en concurrence. Qu'est-ce qui va être déterminant? Qu'est-ce qui va permettre au mode d'organisation étatique de finir par triompher, James C. Scott?
That, of course, is a question that goes beyond the boundaries of my book.
Alors, so you understand cette question-là va au-delà du propos de mon livre. Donc là, je transgresse un petit peu les choses. Je transgresse mon propre domaine d'exploration. D'un point de vue historique, l'État traditionnel était extrêmement fragile en raison d'épidémies et des effets de surpopulation locale, les animaux et les êtres humains vivant tous ensemble dans un lieu de petite taille. Donc pendant longtemps, les États étaient fragiles, proches de l'effondrement, soit en raison d'une guerre civile, une guerre de succession, la transmission de la royauté, par exemple, ou alors la concentration des céréales qui sont sensibles aux maladies également, des maladies du bétail, ou alors les maladies, évidemment, les épidémies entre êtres humains. Cela a persisté jusqu'à ce que l'on... jusqu'au milieu du 19e siècle, jusqu'à ce que la plupart des villes européennes ne pouvaient pas se reproduire en interne, de manière endogène. La croissance des villes au milieu du 19e siècle en affaires ne pouvait se faire qu'avec un exode rural, donc avec une source exogène de croissance démographique. On retrouve ça chez Balzac, par exemple. Alors, à part cela, l'existence d'un État précipite la cristallisation d'un autre État qui va venir s'opposer dans le cadre d'une guerre ou d'un conflit ou de la mobilisation de ressources. Ce n'est que très récemment qu'on a changé la façon de voir le paysage et il y avait des domaines qui n'étaient pas du tout maîtrisés par les États. Et ces domaines, eh bien, c'était les États occupés par les barbares. Et cela représente la majorité du territoire mondial, d'ailleurs. Et ce n'est qu'avec la dynamite, les bulldozers, les routes, les hélicoptères et aujourd'hui l'électronique que l'État peut projeter son pouvoir partout dans le monde avec un système de frontières. Et l'État n'avait aucune raison de maîtriser ces territoires qui étaient physiquement stériles et inutiles. Cependant, aujourd'hui, c'est là que l'on trouve la génération hydroélectrique, c'est là que l'on trouve l'exploitation forestière ou minière. Et évidemment, ça fait l'objet d'un commerce mondial. Donc on se retrouve avec une conjugaison de facteurs permettant à l'État de s'étendre sur tous les territoires avec le désir d'exploiter les ressources des territoires parce que ce sont des biens taxables que l'on exploite et cela coïncide tant et si bien que l'État devient hégémonique. Et ce n'est peut-être qu'en Asie du Sud-Est que ça devient hégémonique après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'en Europe, ce phénomène a lieu bien plus tôt.
Alors, peut-être l'une des raisons pour votre intérêt pour l'État et sa remise en question, sa relativisation, au fond, est à rapprocher du fait que, souligne Jean-Paul Demoule, l'archéologue, dans la préface qu'il consacre à votre livre dans son édition française, à savoir que vous feriez partie d'un courant d'anthropologues anarchistes aux côtés de David Graeber ou de Marshall Salins. Vous vous reconnaissez dans ce portrait de groupe que propose Jean-Paul Demoule, James C. Scott?
Je ne suis pas contre. I wrote a book called Two Cheers for Anarchism.
J'ai écrit un livre intitulé Two Cheers for Anarchism, Hurrah pour l'anarchisme en quelque sorte.
Ne traduit pas facilement aussi. I think in French it's called Petit éloge à l'anarchisme. So I find myself in great sympathy with.
En conséquence, oui. Il y a des résonances intellectuelles entre mon travail et cette perspective, d'analyse très pointue qui consiste à analyser les choses d'un point de vue non étatiste et la mobilisation d'en bas des mouvements sociaux et mes premiers travaux sur la résistance, insistent sur le fait que la plupart des formes de résistance ne se déclarent pas comme telles. C'est soit le braconnage,
la lutte
sur la terre engagée au niveau du braconnage, ou alors le fait de l'occupation sans déclaration formelle d'intention politique. Ce n'est pas une invasion territoriale, ça ne s'annonce pas comme telle. L'opposition des conflits armés exprimée sous forme de désertion et pas sous forme de mutinerie où on arrête les officiers. Donc ma compréhension de l'histoire de la résistance populaire, c'est qu'elle se produit à un niveau où il y a de la coordination, certes, mais il n'y a pas une organisation formelle que l'on pourrait comparer les activités de l'État. Par conséquent, moi je me trouve tout à fait en amitié avec Proudhon, par exemple, s'agissant de l'auto-détermination, l'auto-organisation dans le champ de l'histoire du monde.
L'histoire profonde du monde, on la retrouve dans la deuxième partie de l'émission, la préhistoire même, c'est après un extrait du nouvel album du rappeur californien Tyler, The Creator, I Think.
What I'm pulling, what the fuck is your motive? Man, I wish you would call me by your name, cause I'm sorry. This is not apology, you are such a distraction. That's what Tiana are, fucking up my ambiance. Pause, you drive me cuckoo and not call, cause I want you like Leon. Okay, say it, get it.
La suite dans les idées.
Okay, wait a minute, I'm
gonna drop
that shit. I am on, walk curiosity, keep the feline. I think I fall in love. This time I think it's for real. I think I fall in love. This time I
Homo Domesticus, c'est le titre du livre de James C. Scott. Nous parlons aujourd'hui une histoire profonde des premiers états, un livre qui paraît aux éditions La Découverte. James C. Scott est professeur émérite de sciences politiques et d'anthropologie à Yale University. Il est rejoint pour cette deuxième partie par Maria Stavrinaki. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire de l'art à Paris 1. On vous doit un livre saisi par la préhistoire qui a paru aux presses du Réel récemment. Et puis, vous faites partie de la petite équipe qui a conçu cette exposition présentée depuis quelques semaines maintenant au Centre Pompidou, Préhistoire, une énigme moderne. Alors, si j'ai pensé vous faire dialoguer, c'est évidemment que James C. Scott s'intéresse, remonte aussi loin que la préhistoire, même si la plupart des périodes dont il parle sont postérieures à la préhistoire, à proprement parler. Au fond, ce qu'il peut y avoir de commun dans vos approches, c'est le fait que James C. Scott remet, on vient de l'entendre, en question des récits canoniques, des récits légendaires qu'on a tous appris à l'école et qui sont encore assez souvent imprimés dans les livres. Et vous les remettez également en question en faisant, au fond, de l'historiographie de la préhistoire, en vous intéressant à la manière dont la notion même, au fond, de préhistoire a été inventée, et inventée très récemment, puisque ça ne remonte qu'au 19e siècle, Maria Stavrinaki.
Oui, c'est tout à fait ça. D'une certaine façon, James Scott pourrait être un cas de figure pour mon livre, parce que précisément, la préhistoire, pour nous les modernes, est une histoire. Une histoire que nous écrivons sans cesse depuis le moment que nous avons conçu la possibilité même de la préhistoire et que nous avons cherché à façonner des néologismes qui pourraient décrire ce nouvel objet qui nous laissait stupéfaits, en fait. Donc on n'était pas en fait gnosiologiquement préparé à expliquer ce qu'on trouvait. Effectivement, ce grand récit du temps linéaire et du progrès est un récit canonique du néolithique qui a été fondé surtout par des anthropologues et des préhistoriens britanniques, mais aussi des Français, des préhistoriens français. Mais toutefois, il a été régulièrement mis en cause par d'autres récits qui l'ont contesté. Et d'une certaine façon, mon livre, qui a donc comme sous-titre « Enquête sur l'art et les temps des modernes », est cet autre récit qui, chaque fois, accompagnait, contredisait le récit du progrès. D'une certaine façon, l'Anthropocène, qui donc peut-être remonte dans sa version plus douce à l'invention du feu, il a été pensé pour la première fois, je pense, avec l'invention et la conception de la préhistoire. Parce que, tout simplement, quand on a pu lire les fossiles et les restes des organismes disparus, on a pensé tout de suite à notre propre extinction. Et on a dissocié pour la première fois, en fait, notre extinction de celle de la Terre. C'est-à-dire, on envisageait non seulement un passé sans les hommes, mais aussi un futur sans les hommes. Et ce n'est pas du tout par hasard que ceci a été fait au même moment où le capitalisme et la révolution industrielle se produisaient en Europe. Car ainsi, on a pu aussi projeter les fossiles dans nos propres créations industrielles qui étaient vouées à être obsolètes. Donc, d'une certaine façon, l'exposition et le livre essayent de raconter cette autre conscience du temps qui n'est pas seulement celle du progrès, celle de l'avancée donc dans le futur. Je pense qu'en même temps qu'il y avait ces sentiments, cette conscience de l'accélération, il y avait dans la conscience européenne, évidemment, parce que c'est un récit très partiel, occidental, disons de façon plus large, la conscience du temps long, une accélération régressive, qui avait exactement le même produit, en fait, qui produisait cet effritement des formes, cet effritement de l'expérience, ces sentiments précisément qu'on allait en tâtonnant, en quelque sorte. Et donc, en même temps que l'homme occidental s'est façonné ce rôle de conquête, de maîtrise de la Terre, en même temps, il s'est désaisi de ce qu'il produisait. Et donc, c'était une démarche constamment sapée. Donc, comme James Scott, moi aussi j'avais l'ombre de l'Anthropocène hein, quand j'écrivais mon livre ou quand je parlais avec mes camarades de l'exposition à Beaubourg. Hein. Mais disons que cet Anthropocène, j'ai cherché à le, comment dire, à l'historiciser, de sorte à nous rendre, à me rendre moi-même, mais aussi peut-être mes lecteurs ou les spectateurs de l'exposition, les visiteurs de l'exposition, plus capables d'envisager une action vertueuse, en quelque sorte, dans le futur.
Vous entendez ce que dit Maria Stavrinakis, James C. Scott, vous avez trouvé trace, quand vous avez mené l'enquête, des tensions dont elle parle, de cette forme de réflexivité, au fond, y compris dans ces récits qui peuvent nous paraître très unilinéaires, ces récits légendaires de l'essor de l'humanité, du progrès. Il y a des moments de doute, des moments d'inquiétude, des moments de projection vers le futur.
I hope this is responsive in the sense that
j'espère pouvoir répondre à ce propos. Bien souvent, je pense que l'on n'attache pas suffisamment de crédit aux états premiers ou aux penseurs premiers des états très anciens. On ne leur donne pas suffisamment de crédit quant à leur capacité de comprendre les problèmes qu'occasionne leur façon de vivre. Dans Gilgamesh, se remémore la période de liberté et ce qui a été perdu au cours de l'établissement d'une ville, d'un état. Et l'absence d'hérédité ou d'activité ou de mouvement. Donc, moi, je pense que personne ne l'a encore fait, à mon avis, mais il y a une nostalgie intéressante là, qui nous dit que les gens comprennent ce qui a été perdu, les connaissances qui sont évaporées, la connaissance du monde naturel.
Et
on se rend compte qu'il faut payer un certain prix. Ce n'est pas que l'on soit totalement ignorant du monde abandonné derrière avec tous les avantages que cela comporte. Et du reste, ce monde était en dehors de l'État et les appelait, les convoquait. S'il y avait une guerre civile, une épidémie, eh bien, on pouvait revenir vers ce monde naturel. Ce monde était disponible pour des millions d'êtres humains jusqu'à très récemment.
James C. Scott parlait de Gilgamesh, mais en passant dans son livre aussi, il note que certaines interprétations de Adam et Ève renvoient également à cette idée-là, Maria Stavrinakis.
Absolument, oui. Il y a effectivement dans les livres de James Scott nostalgie, une certaine nostalgie, une supposition que dans le passé donc éloigné, qui correspond en gros au paléolithique ou bien aux techniques et aux pratiques ou au mode de vie du paléolithique, l'homme était en fait un être plus équilibré, plus heureux, plus unique, plus libre. Très simplement plus libre hein, que pendant le néolithique. Et pour moi, historienne, cette idée elle est mise en perspective justement par beaucoup de récits qui ont créé hein, cette conception. Je pense que l'histoire, précisément de la longue durée, elle nous pousse aussi à créer des blocs qui, comme le dit Brodel, de façon comme ça, fameuse, les événements sont l'écume de l'histoire. Donc, d'une certaine façon, ce sont les structures qui nous intéressent, ce sont les grands blocs, et puis on compare ces grands blocs. J'ai un peu de mal avec l'idée que, d'une certaine façon, on aurait un bloc de la liberté et un autre de la contrainte. D'une certaine façon, cette inversion qui caractérise la structure donc, de cette théorie, c'est que d'une certaine façon, on a donc l'âge de l'abondance, hein, pour faire écho à Marshall Salins, et d'autre part, nous allons un autre âge ou un autre modèle qui est l'abondance de maladies, des épidémies, etc. Et donc, il y a une métaphore dans le texte que je trouvais très saisissante, très significative. C'est lorsque, par exemple, James Scott dit qu'en fait, là, ce sont les parasites qui ont trouvé un festin abondant dans le domus. Donc, on a vraiment l'inversement de l'abondance pour les humains, on va à l'abondance des parasites. Voilà. Donc, effectivement, pour moi, ça, c'est quelque chose qui peut nous aider à penser beaucoup de choses. Par exemple, ça peut être un instrument critique pour lire notre propre époque. Parce que quand, chaque fois qu'on lit la longue durée ou la préhistoire, on pense toujours à notre présent. Mais il y a aussi certaines limites de cette...
James Scott, vous avez pu prendre connaissance de cette exposition sur la préhistoire au Centre Pompidou ?
Oui.
Comment l'avez-vous trouvé ?
It was a stunning exhibition, I think.
Une exposition frappante, étonnante.
The imagination required pay homage to the one of the organizers of the exposition.
Je tiens à rendre hommage. Plein des organisateurs ou organisatrices de l'exposition. Moi, il me semble que l'imagination dont il faut faire preuve pour juxtaposer les objets découverts par l'archéologie d'une part et l'exploitation de l'imagination des artistes qui font montre d'une nouvelle sensibilité par de nouvelles formes d'expression. Eh bien, tout cela constitue un mouvement intéressant entre la supermodernité et le fait de revenir à l'esthétique de la vie primitive ou ancienne. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'il s'agissait là d'un moment où la révélation du passé a eu un impact immense sur la création du modernisme et de l'art. Et des gens comme Klee et Klee ou Picasso, j'en avais entendu parler, certes, mais là, on est dans une exposition bien plus imaginative et les juxtapositions sont fascinantes. Donc, je n'ai pas encore eu la chance de lire le catalogue, mais cette exposition à Beaubourg, je veux pouvoir m'y pencher plus en détail.
Eh bien, elle vient d'ouvrir, vous avez encore un peu de temps, chers auditeurs, pour aller voir Préhistoire, une énigme moderne, c'est au Centre Pompidou. Maria Stavrinaki, vous êtes l'une des co-commissaires de cette exposition. Vous avez également publié Saisie par la Préhistoire aux Presses du Réel. Et le livre dont nous parlions aujourd'hui à la suite dans les idées, c'est Homo Domesticus, un livre de James Scott qui est paré aux éditions La Découverte. Vous trouvez toutes ces références biographiques, la référence vers l'exposition aussi sur la page de la suite dans les idées. Vous pouvez réécouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Chouchane Djergaillan, à la technique aujourd'hui, Julien Douminc, à la réalisation, Anne Pérez Franchini. Et je remercie Xavier Combe pour la traduction des propos de James Scott. Dans quelques instants, c'est Christine Bernard que nous retrouvons sur l'antenne de France Culture.